Voilà, donc on va passer aux commentaires. On ne s'est pas concerté avant pour savoir qui commençait. Est-ce qu'on commence par le banquier ou le...
Vous voulez. Bonjour à tous et merci à Michel Berry et à François de m'avoir donné l'occasion de faire quelques commentaires sur ce livre consacré à la gouvernance d'entreprise. Je me consacrerai pour l'essentiel à la critique que François fait des marchés financiers et aux recommandations par lesquelles il vient de terminer son exposé. Bon, je laisse de côté tout ce qu'il a dit sur l'éthique d'entreprise dans les deux premiers chapitres. C'est extrêmement intéressant, surtout pour quelqu'un de relativement peu instruit de ces questions comme moi, par les données qu'il a rassemblées, par l'analyse qu'il en fait. Il donne vraiment une perspective très, très enrichissante sur l'éthique d'entreprise. Ensuite, sur les chapitres consacrés à Enron et WorldCom, il se trouve que j'ai été un lecteur plutôt distrait des journaux. Et donc, me remettre en mémoire ce qu'ont fait ces braves gens, inspirés par ce que les anciens Grecs appelaient l'hubris, c'est tout à fait intéressant et ça ne peut pas ne pas avoir d'incidence sur la manière dont on peut lire l'actualité d'aujourd'hui et de demain. Et enfin, je ne parlerai pas non plus de l'analyse des subprimes, parce que ça, effectivement, comme vient de le dire Michel Berry, c'est une analyse qui est excellemment faite. Et on voit très, très bien comment, en fait, chacun des intervenants est sorti des éléments fondamentaux de son métier. Quand vous regardez les courtiers, ils ont failli à leur devoir de conseil des emprunteurs. Quand vous regardez les banquiers, ils n'ont pas fait d'analyse de risque parce que leur souci était de vendre au plus vite des titres, se délester au plus vite des risques. Quand vous regardez les acheteurs finaux des risques, c'est-à-dire en fait les investisseurs, les épargnants, les caisses d'épargne, etc., les fonds de pension et ainsi de suite, ils n'avaient aucune capacité ni aucun savoir-faire en matière de risque. Et donc, ils se sont fait vendre des risques qu'ils n'avaient pas la capacité d'analyser. Et quand vous regardez l'action des banques d'affaires et des agences de notation, je n'ai pas besoin de vous faire un long commentaire. Tout ça est très bien expliqué dans le livre de François et, à mon avis, est parfaitement pertinent. Bon. Je vais en venir directement au marché financier. Bon. La façon dont François en parle est, à mon avis, assez claire et assez convaincante. Je ferai juste une toute petite première observation, c'est que, selon moi, il n'y a pas vraiment d'opposition entre mimétisme et marché efficient. Tout simplement parce que la définition des marchés efficients, c'est d'intégrer toute la formation disponible, comme François l'a rappelé. Et lorsque vous êtes un opérateur de marché, l'information disponible comprend aussi le comportement de vos voisins. Donc, en fait, le marché, il est efficient à tout moment. Il n'est pas efficient de temps en temps, puis inefficient à d'autres. Il est efficient à tout moment. Et l'information, parce que tout le monde, le mimétisme est un des comportements des marchés. Enfin, ça, c'est un point de détail, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui a beaucoup plus d'importance, c'est trois remarques que je ferai de manière, je crois, assez rapide. La première remarque, c'est que un marché financier ne peut fonctionner que s'il y a des opérateurs intéressés au mouvement même du marché, en clair, des spéculateurs, c'est-à-dire des gens qui sont des pelés et des galeux, mais ils sont absolument indispensables. Quand vous prenez, par exemple, le marché pétrolier, vous avez un marché au comptant où ce sont des opérateurs physiques qui interviennent, et vous avez un marché à terme où on s'échange des promesses sur des quantités. Et en fonction de prix, bien entendu. Le marché physique fait intervenir des opérateurs physiques et le marché à terme fait intervenir des opérateurs physiques et des opérateurs financiers qui, eux, ne sont là que pour s'interposer entre l'offre et la demande, entre opérateurs physiques. Et l'expérience nous dit que les marchés à terme ne fonctionnent pas s'il n'y a pas d'opérateurs financiers. C'est aussi simple que ça. Donc les spéculateurs sont absolument indispensables au fonctionnement des marchés. Bon, donc ça, c'est un premier point. Dès qu'on veut avoir des marchés financiers, il faut des spéculateurs. J'ai une seconde remarque. C'est que je m'interroge sur la notion de croyance. Non pas pour remettre en cause ce que François en a dit, parce que je pense qu'il a parfaitement raison, mais tout simplement pour une raison qui, à mes yeux, est totalement fondamentale, c'est qu'en matière d'économie comme dans les affaires, tout est affaire de croyance ou d'opinion, mais absolument tout, dès qu'il s'agit du futur. C'est-à-dire, le futur est inconnu, et donc, quand vous prenez des décisions concernant le futur, quelles que soient les décisions, quels que soient les marchés, qu'ils soient financiers ou non, vous le faites sur la base d'opinion. Ou de croyance, si vous préférez. Et il n'y a pas d'autre méthode. Si, il y en a une autre qui a été programmée, enfin qui a été mise en application quelque part vers l'Est, si vous vous souvenez, et ça a fonctionné de manière totalement désastreuse. Donc, en fait, dans les entreprises et dans les marchés, tout est affaire d'opinion. Je vais vous prendre un exemple extrêmement simple. Quand vous regardez la stratégie des constructeurs automobiles en Chine, ils ont des programmes d'investissement colossaux et prévoient de livrer des immatriculations en nombre également colossal dans les années à venir, disons par exemple dans les 5 ans. C'est absolument impossible qu'ils aient tous raison. C'est impossible. Parce qu'ils prévoient une croissance qui est. Leur projet d'investissement prévoit une croissance qui est telle qu'au total, ils ne pourront pas réaliser tous leurs projets. Donc il y en a forcément un certain nombre qui se trompent. Lesquels, c'est tout le problème. Mais il y en a certainement une partie d'entre eux, peut-être d'ailleurs tous, qui se trompent. C'est impossible autrement. Et dans la plupart des marchés, c'est comme ça. Il n'y a aucune raison que les décisions prises par des opérateurs décentralisés, qui prennent des décisions relativement indépendamment les uns des autres, aboutissent comme par miracle à faire qu'au total, les prévisions se réalisent toutes simultanément. C'est impossible. C'est impossible dans tous les marchés. C'est impossible dans les marchés financiers, bien entendu. Ensuite, je ferai une troisième remarque qui, pour moi, est absolument fondamentale. C'est que les marchés financiers sont en connexion avec la macroéconomie. Or, et cette macroéconomie, il y a beaucoup de choses à en dire dans les dernières années, mais des choses absolument considérables. Je prends un premier exemple. Les États-Unis, depuis le début des années 2000, sont en déficit chronique, en déficit extérieur chronique, du fait d'un déficit budgétaire intérieur colossal. Bon. Ce qui veut dire que des capitaux doivent arriver. Mais pour que des capitaux arrivent aux États-Unis, il faut que quelqu'un porte la dette. Il faut que quelqu'un porte la dette. Et il faut trouver un marché qui se développe, un marché de crédit ou d'endettement qui se développe, pour porter la dette qui est contrepartie de l'endettement extérieur des États-Unis. Or, dans les années 2005-2006, les Américains ont trouvé le marché immobilier et donc la crise des subprimes. S'en est suivie. Ce qui veut dire de façon très très claire que la cause principale de la déroute des subprimes, c'est un, assurément un comportement contestable de la part des acteurs, je ne reviens pas là-dessus parce que ce que François en dit est parfaitement juste, et deux, en sous-jacent, de façon absolument, à mes yeux, convaincante, un endettement extérieur des États-Unis qui faisait qu'il devait y avoir un endettement intérieur colossal pour être la contrepartie de cet endettement extérieur. Bon. Je prends un deuxième exemple qui généralise le premier, en fait. Dès que vous avez un déficit extérieur américain qui est continu de façon régulière, ça crée forcément des bulles. Vous avez des bulles, c'est inévitable, pour exactement la même raison. On a vu une bulle sur Internet dans les années 99, 2000, 2001, qui a explosé en 2002-2003. Bon, on a vu une bulle immobilière, on en a parlé, et maintenant, on est en plein dans une bulle obligataire, qui est moins gênante, dont on parle moins, parce qu'elle a pour les gouvernements un avantage absolument colossal, pas pour tous, je le reconnais, c'est qu'ils s'endettent à des taux extrêmement bas. Bon, donc, mais aujourd'hui, il faut que vous sachiez que nous sommes dans une bulle obligataire qui a exactement les mêmes raisons. Ensuite, toujours sur le plan macroéconomique, vous avez un élément tout à fait décisif qui est la concurrence entre New York et Londres pour être la capitale financière mondiale. Cette concurrence, elle existe de manière pas tout à fait larvée, elle est même ouverte, chacun a son journal, chacun a son groupe de pression, chacun a ses activistes, et cette concurrence, elle dure depuis des dizaines d'années, et elle va durer encore des dizaines d'années. Donc la concurrence entre New York et Londres est un facteur absolument fondamental de l'évolution des marchés financiers. C'est aussi un facteur absolument fondamental de la structure financière ou la structure de l'industrie financière dans les deux pays. Je vous rappelle qu'en Angleterre, toutes les banques, sauf HSBC, qui n'est pas vraiment une banque anglaise, et Barclays, qui est, elle, une banque anglaise, toutes les banques ont été prises en charge par l'État ou par des tiers. Donc toutes les banques anglaises, sauf Barclays, ont disparu. Et aux États-Unis, même chose, toutes les banques d'affaires ont disparu ou été menacées de disparaître. Vous avez Lehman qui a disparu, ça c'est un accident, mais il s'est quand même produit. Merrill qui a été repris, Bear Stearns, beaucoup plus petit, qui a été repris. Morgan Stanley et Goldman Sachs qui ont été sauvés par le gouvernement américain via l'intervention dans AIG. Et s'il n'y avait pas eu cette intervention dans AIG, Goldman Sachs et Morgan Stanley auraient disparu. C'est-à-dire que la totalité de l'industrie financière sous l'angle des banques d'investissement ou investment banks aurait disparu aux États-Unis. Donc cette concurrence, elle a vraiment quelque chose d'assez sérieux. C'est-à-dire que quand c'est deux boxeurs qui se battent, et non seulement c'est pas un qui meurt, c'est les deux. C'est pour résumer le film. Et enfin, le quatrième exemple, et de loin, le plus important, qui explique à mes yeux toutes les évolutions qu'on voit, c'est en matière de politique économique, vous avez deux instruments. Vous avez un instrument budgétaire et un instrument monétaire. C'est tout à fait clair que l'instrument budgétaire, il est à bout de souffle. Il est à bout de souffle. Donc, et pour une raison qui est absolument évidente, c'est que les gouvernements, à peu près partout sur la planète, ne peuvent plus emprunter. Et donc, il ne reste plus que l'instrument monétaire. Et cet instrument monétaire, il a comme moyen principal d'augmenter la quantité de monnaie mise à la disposition des agents. Et augmenter cette quantité de monnaie, ça donne de l'essence, si j'ose dire, au marché financier. Ça donne du fuel au marché financier. Et les marchés financiers en profitent et deviennent de plus en plus importants. À ceci se joint, le problème de la déconnexion des marchés financiers, l'interconnexion croissante des marchés financiers qui fait que tous ces marchés sont comme une immense océan. Au début, c'était des petites baignoires. Les petites baignoires se sont agrégées, c'est devenu des piscines. Les piscines se sont agrégées, ce sont devenus des lacs. Maintenant, les lacs sont devenus un immense océan et dans lesquels vous pouvez avoir... des effets papillons, comme pour prendre une expression très bien connue, des effets papillons qui se produisent et par lesquels se déclenchent en général des crises. Donc le fond du sujet, c'est que nous sommes dans une politique macroéconomique, une politique monétaire, qui cherche à suppléer à une politique budgétaire qui a trouvé ses limites, qui cherche à se suppléer en émettant une quantité de monnaie considérable, et que cette quantité de monnaie considérable aboutit forcément à des excès. Elle aboutit forcément à des excès. En clair, pour reprendre les choses, il y a toujours un chapeau, et il faut que le chapeau tombe sur quelqu'un. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il y a toujours un chapeau, il faut que le chapeau tombe sur quelqu'un. Alors, de là, il y a deux multiplications. Premièrement, deux multiplications associées à deux questions. Premièrement, la multiplication au plan macroéconomique, ça je viens d'en parler, c'est la multiplication des risques systémiques qui découlent de ce que je viens de dire et qui aboutit à la question comment faire en sorte que la taille du chapeau soit moins importante qu'elle n'est. Et puis vous avez au plan microéconomique la multiplication des risques. Puisque, comme je vous dis, le chapeau, il doit forcément tomber sur quelqu'un. Et donc la question, c'est comment faire en sorte pour qu'il ne tombe pas sur moi, mais sur quelqu'un d'autre. Voilà. Donc c'est là où on revient sur les idées et les recommandations de François. Comment faire en sorte que, par le contrôle des risques et le contrôle de conformité, le chapeau ne tombe pas sur moi, mais ailleurs. Donc là, je prendrai pour bien me faire comprendre l'exemple de BNP Paribas, où j'ai vu l'évolution des risques dans les quelques 20 dernières années. Et on peut la caractériser par quatre traits principaux. Premièrement, la multiplication des marchés. Je ne reviens pas là-dessus, les marchés comptants et les marchés à terme, les marchés financiers, les marchés de matières premières, les marchés principaux, les marchés de dérivés. Enfin bref, on a une gamme de marchés extraordinairement vaste et bien plus vaste que ce qu'elle était il y a 20 ans. C'est pour ça que je parle d'interconnexion des marchés. La deuxième chose, c'est une sophistication croissante des différents marchés, et ceci dans le crédit comme dans la finance, qui va de pair, comme je l'ai déjà indiqué, avec l'interconnexion au plan mondial. Ensuite, troisièmement, un élargissement très net de la notion de risque. Et d'ailleurs, François n'a, je crois, pas suffisamment insisté sur la question, mais dans son esprit, la notion de risque est associée à celle de conformité, ce qui est exactement, je crois, le bon langage. Et ça veut dire qu'à côté du risque financier sur les marchés du crédit ou de la finance, vous avez d'autres familles de risques qui sont tout aussi importantes. François en a mentionné certains, mais on peut en faire une liste. Il y a une liste très complète qui existe, des risques juridiques, des risques fiscaux, des risques opérationnels, des risques administratifs, des risques d'image, des risques de réputation, etc. etc. Bon. Donc, les banques, dans ces 20 dernières années, ont fait un effort absolument considérable pour comprendre la notion, pour s'efforcer d'en tirer les conséquences dans leur organisation, pour mettre au point des dispositifs qui permettent de gérer, mesurer, contrôler ces risques. Et ces efforts aboutissent à ce que, par exemple, pour vous donner juste un exemple et une mesure dans BNP Paribas, il y ait 5000 personnes qui s'occupe de ces questions. On est loin d'un directeur des risques isolé chez Arthur Andersen ou Accenture, je ne sais plus. On est loin de ça. Il y a 5000 personnes qui s'occupent de ça tous les jours et qui sont des guerriers extrêmement expérimentés. Tout ça, ça découle d'un règlement qui, à mes yeux, pour la France, vaut largement la loi Sarbanes-Oxley ou Dodd-Frank. Si vous voyez un banquier, il s'en trouve encore quelques-uns à Paris. Si vous en rencontrez un, parlez-lui du 97-02. Selon sa psychologie, ses yeux vont briller ou se ternir. Mais le 97-02, c'est un règlement émis par la commission bancaire qui dépend de la Banque de France et qui est chargée de la régulation prudentielle, qui organise en 1997 un programme extrêmement sophistiqué et extrêmement complet de contrôle de tous les risques et de la conformité dans toutes les banques et qui donne aux banques plusieurs années pour s'adapter à ces exigences. Et ce 97-02, c'est la poutre maîtresse de l'architecture des risques bancaires. Cela étant, pour venir directement sur la recommandation de François, ce qu'on observe dans les banques, c'est une tension ou un contraste fort entre deux exigences qui sont bien différentes. La première, c'est la spécialisation des hommes du risque et de la conformité. C'est-à-dire, si vous êtes un spécialiste juridique, par définition, si vous n'avez pas travaillé 15 ans ou 20 ans dans le sujet, vous avez du mal à bien être au point. Même chose en matière de risque de marché, même chose dans toutes les familles de risques. Donc, vous avez besoin de spécialistes. Et comme je le disais tout à l'heure, BNP Paribas en a, dans ces différents domaines, 5000. Ce sont, je crois pouvoir le dire sans risque de me tromper, des vieux chats qui ont fureté dans tous les trous. C'est-à-dire, ils savent de quoi ils causent. Bon, deuxièmement, la deuxième exigence qui est un peu difficile à concilier avec la première, c'est la responsabilisation des dirigeants ou des managers online. C'est-à-dire, c'est eux qui font le business et ils font le business avec des risques, parce que des risques, il y en a inévitablement, comme je disais tout à l'heure. Et donc, il faut qu'ils soient responsabilisés sur l'ensemble de la chose. Et c'est très difficile de dissocier, c'est même rigoureusement impossible, de dissocier la responsabilité, dans le champ de responsabilité d'un manager, de dissocier ce qui est prise de risque de ce qui est exercice normal et quotidien de son activité. Bon, vous me direz, c'est pas tout à fait le sujet. Si, c'est quand même un petit peu le sujet, parce que la recommandation de François, c'est de faire en sorte que le responsable des risques dépende directement du conseil d'administration, et non pas, si je comprends bien, du président. Alors, je ne sais pas exactement ce que, c'est peut-être François nous l'expliquera, ce qu'il a en tête par cette notion de dépendance. Est-ce que si c'est une dépendance hiérarchique, je m'interroge. Si c'est une dépendance en termes de relations, de, etc., d'informations, d'alertes, etc., ça existe déjà. On peut certainement améliorer le dispositif. Je peux vous raconter la manière dont est organisé le conseil d'administration de BNP Paribas, la façon dont il travaille, mais pour que vous réduire la chose à l'essentiel, il y a 4 comités, dont un comité qui s'appelle contrôle interne et risque et conformité. Et ce comité a 3 membres. Sur ces 3 membres, il n'y a aucun dirigeant de BNP Paribas, il y a un salarié de BNP Paribas et 2 administrateurs indépendants au sens de la gouvernance d'entreprise telle que prévu par l'Association française des entreprises faisant appel à l'épargne. Et ces 2 personnes sont 2 grands spécialistes. Vous avez un ancien président de la COB, ancien président de l'autorité des marchés financiers, ancien dirigeant de banque préside ce comité, et un autre banquier qui est un banquier du Benelux, qui lui aussi a dirigé à très haut niveau des banques de très très importantes. Donc ces gens-là savent de quoi ils parlent. Ils se réunissent 4 fois par an. Ils ont le droit de voir à leur demande le responsable des risques, le responsable de la conformité, le responsable du contrôle interne, c'est-à-dire de l'inspection générale et du contrôle permanent de BNP Paribas, et sans la présence de la direction générale. Donc ils ont tous les moyens de savoir et ils sont chargés de faire un rapport, alors je ne me souviens plus si c'est 1 ou 2 fois par an, au conseil d'administration sur l'évolution des risques dans BNP Paribas. Non seulement ils ont les moyens de savoir, mais ils ont à titre personnel, compte tenu de leur expertise que je viens de mentionner, ils ont la compétence nécessaire pour analyser ces questions qui sont extrêmement difficiles. Cela étant, pour revenir sur la question du renforcement de la fonction des risques, je me suis forcé de faire un petit plaidoyer en faveur de BNP Paribas. C'est tout à fait vrai, et ça François a intégralement raison d'insister là-dessus. En termes d'économie, plus la fonction des risques est forte, plus elle est constituée de gens compétents ayant le souci du bien de l'entreprise et ayant la rémunération qui va bien, comme il le disait, et la fonction objective qui va bien aussi avec, mieux les entreprises se porteront. Ça, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. J'en viens enfin pour terminer sur les agences de notation et qui participent à ce que François appelle fort justement le commerce de la confiance. Bon, François, on sait tous ce qu'elles ont fait et ce qu'elles n'ont pas fait. François a une idée sur elle que je trouve ingénieuse et qu'il est tout à fait possible de mettre en place. On pourrait avoir d'autres idées, mais celle-là, à mon avis, va bien. Une autre idée serait, par exemple, d'avoir une agence des agences qui note les premières agences et qui décerne un label de qualité. On fait bien ça dans le médicament, avec des études approfondies. Ce n'est pas très difficile à faire. On peut très bien faire ça sur les grandes agences du type Standard & Poor's, Moody's et Fitch. Ce ne serait pas beaucoup plus compliqué et que la solution préconisée par François. Et à mon avis, ce serait sans doute, à peu près aussi efficace. Donc, deux commentaires et un vœu pour terminer. Le premier commentaire, c'est que la réflexion sur les marchés financiers se doit d'inclure une analyse de la connexion entre finance et reste de l'économie. Et ça, c'est un point absolument fondamental. J'avais été frappé par un article très intéressant que j'avais lu il y a déjà quelques mois, qui montrait que le profit des entreprises financières américaines représentait 13% de tout le profit des sociétés cotées américaines il y a une vingtaine d'années. Et devinez quel est le chiffre dans les années 2007-2008, ben c'est le double, c'est-à-dire 26%. C'est-à-dire ça, le profit des entreprises financières américaines, rapporté au profit total des entreprises américaines, a doublé en quelques 20 ans. Est-ce que ceci est la marque d'une contribution importante des entreprises financières à la bonne marche de l'économie américaine ? Chacun, je pense, est capable de répondre à cette question. Et un deuxième commentaire, je crois qu'on n'insistera jamais assez sur la connexion entre finance et politique macroéconomique. C'est, à mes yeux, un point absolument fondamental. Nous sommes en plein dedans, et nous sommes en plein dedans depuis des années. La chose s'est accélérée dans les 3 ou 4 dernières années, je crains que nous n'en sortions pas aussi vite que ça. Et donc, une réflexion sur cette connexion est vraiment un élément, quelque chose de ardemment souhaitable. Et enfin, un vœu. C'est que la notion de risque est tout à fait au cœur de l'économie moderne et je crois qu'on peut tous souhaiter que François y consacre plus de temps et plus d'efforts dans la période à venir.
Merci. Alors, François, je crois déjà deviner nous deux réponses que tu peux faire, mais ce que je te propose, c'est qu'on passe tout de suite la parole à Dominique Jacquet, et puis ensuite tu pourras répondre, et on passera aussi la parole à la salle.